La question du jour était la suivante. L'interdiction israélienne par la loi votée à la Knesset, l'interdiction des activités de l'UNRWA sur le sol israélien, est-ce un geste historique selon vous? Alors Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs?
Eh bien, très honnêtement, Didier, il pense que oui, et il y a une très large majorité, 92% de oui, 92% de oui sur Facebook, 93% de oui sur Insta, très large majorité également sur X. Donc, oui, effectivement, c'est quelque chose d'historique. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Et vous n'avez pas tort. C'est vrai que c'est une décision qu'Israël a prise tout seul et qui a fait l'objet d'une loi de la Knesset qui est très controversée sans aucune surprise. Et vous voyez qu'en tout cas, Israël persiste puisqu'on a annoncé aux informations ce matin que tout de suite après que cette loi ait été votée, ça y est, les contacts vont être coupés. Il y a donc une période de transition de 3 mois qui va avoir lieu et l'UNRWA va devoir trouver une solution, soit pour continuer ce qu'elle compte faire dans les territoires en Judée-Samarie et à Gaza, soit pour en tout cas aussi se séparer de beaucoup de ses employés puisque l'UNRWA emploie 13 000 personnes dans ces territoires. Et donc, ça va être un vrai problème, comme l'indique Philippe Lazzarini, son directeur, depuis déjà plusieurs mois. En tout cas, Israël a confiance que ça ne va pas être un problème pour continuer de distribuer l'aide humanitaire à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères assurait même que seulement 13% des acheminements sont faits par l'UNRWA. Et que, bien entendu, Israël va donc continuer de coopérer avec d'autres organisations humanitaires, mais pas avec celle-là.
Bien, Lise, la question me paraît intéressante. Vous qui vivez en Israël, est-ce que la rue israélienne a réagi à cette information, plus ou moins, à votre connaissance, ou bien c'est une info qui est passée comme les autres ?
Non, elle a été assez suivie en Israël et tout le monde a trouvé ça absolument normal une fois qu'Israël avait découvert qu'il y avait un certain nombre d'employés de l'UNRWA qui avaient fait partie des terroristes du 7 octobre, qui étaient des membres du Hamas. Et même quand on a donc éliminé Yahya Sinwar, il y avait un de ses gardes du corps principaux qui possédait une carte d'employé de l'UNRWA. Donc, ça va jusqu'au plus haut niveau. Et oui, en Israël, on a trouvé ça tout à fait normal. Ce qu'on ne trouve pas normal, en revanche, c'est cette levée de bouclier mondial pour dire qu'il fallait défendre l'UNRWA, alors que, justement, on venait de prouver ce que je viens de vous dire. Et puis, ce qu'on n'a jamais trouvé normal, et depuis très longtemps, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait une organisation comme l'UNRWA uniquement pour les réfugiés palestiniens, alors que tous les réfugiés du monde n'ont droit, entre guillemets, qu'au commissariat aux réfugiés et que ça ne dérange personne. Et puis, bien entendu, en Israël, ce qu'on a toujours entendu depuis très longtemps, c'est beaucoup de gens expliquer que l'UNRWA ne règle pas du tout les problèmes des Palestiniens parce qu'elle a intérêt à ce que les Palestiniens continuent de rester des réfugiés. Et ça, c'est aussi le fond du problème.
Bien, et je voudrais bien sortir, si vous le permettez, Lise, du cadre, je dirais, précis de l'UNRWA. Dans ce conflit, et je pense que c'était déjà bien avant, lors de d'autres conflits, alors l'UNRWA est pointée du doigt pour l'appartenance de certains de ses membres au Hamas, bien sûr, et ils ont participé activement, on l'a vu, des images l'ont prouvé, que ce sont des véhicules de l'UNRWA qui ont servi à l'enlèvement de personnes qui étaient dans ce festival Nova, notamment. Mais je voudrais sortir du cadre de l'UNRWA parce que finalement beaucoup d'organisations internationales et ONG, comme on dit, que ce soit l'UNRWA, que ce soit la Croix-Rouge, qui est d'un silence assourdissant depuis un an, ils n'ont pas demandé même à avoir accès aux otages, que ce soit, et vous l'évoquiez dans le journal, Rima Hassan, qui a été administratrice de Médecins Sans Frontières en 2021-2022. Comment se fait-il, selon vous, en tant qu'Israélienne, mais aussi en tant que journaliste, avec le devoir de réserve qui s'impose, bien sûr. Comment pouvez-vous juger cela, de voir que dans tous les conflits du monde, on parle de la Croix-Rouge, on parle de Médecins Sans Frontières, et que dans ce conflit précisément, israélo-arabe, toutes ces ONG semblent mêlées de près ou de loin, avec l'ennemi, entre guillemets, d'Israël, les ennemis d'Israël ou les contradicteurs d'Israël?
Bah alors, en ce qui concerne la Croix-Rouge, Didier, je ne peux pas dire qu'on soit excessivement surpris. Je vous rappelle que la Croix-Rouge avait fait des visites dans les camps de concentration nazis et n'avait pas cependant secouru les Juifs qui s'y trouvaient. Donc, quand on parle de ça en termes historiques, on ne peut pas tellement être étonné du fait que ça ne leur pose pas plus de problèmes que ça de ne pas aller visiter les otages. Donc, sur la Croix-Rouge, on ne se faisait pas beaucoup d'illusions. Maintenant, je voudrais, pour terminer, revenir quand même sur cette histoire de l'UNRWA rapidement. Même si énormément de personnes, et pas seulement en Israël, mais aussi des experts, expriment des opinions très défavorables envers l'UNRWA, la pertinence de l'adoption de cette loi par Jérusalem n'est pas évidente pour tout le monde. Compte tenu du conflit militaire qui a lieu en ce moment et de la position diplomatique d'Israël qui est un peu fragile, c'était pas forcément le meilleur moment, même si en Israël, l'opinion publique est 100% derrière cette loi. Et puis ensuite, il y a sur le terrain, qu'est-ce qui va vraiment se passer avec cette loi ou pas avec cette loi? Et ça, c'est vrai que c'est plus, hein, c'est pour ça qu'on vous posait la question sur le geste historique, c'est plus quelque chose de symbolique pour expliquer effectivement qu'Israël ne veut plus avoir affaire, hein, à cette organisation, qui est, complice des terroristes. Mais des gens, par exemple, qui s'occupent d'Impact, une organisation qui contrôle les programmes éducatifs dans le monde entier et qui voit que l'UNRWA avait depuis des lustres, des décennies, dans les manuels notamment de scolaires qui étaient dans les écoles de Gaza, des choses qui étaient absolument horribles, qu'on comptait les chaïds ou les morts, que ça occasionnait la haine depuis le début. Et malgré ça, ça n'avait pas réussi à changer en fait la perception que l'international avait de l'UNRWA. Et donc, sans doute que cette histoire de loi ne va pas véritablement changer non plus. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué, d'autant plus que, comme Gaza, ça n'est pas un territoire israélien, ça n'est pas officiellement Israël qui a la souveraineté sur Gaza. Donc, l'interdiction des opérations de l'UNRWA par la loi de la Knesset, elle ne s'applique pas vraiment à Gaza. Israël va couper ses contacts avec l'UNRWA, mais ça ne va pas empêcher l'UNRWA de continuer à travailler à Gaza. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Donc, c'est pour ça que les gens disaient que la loi israélienne, elle était plus symbolique et effectivement, les Israéliens n'auront plus de contact avec l'UNRWA, mais l'organisation n'a pas sans doute besoin ni d'une coordination, d'une coopération avec Israël pour continuer à faire son travail à Gaza. Et donc, en théorie, l'UNRWA peut gérer ses différents services sans ses contacts avec Israël et continuer à faire quand même ce qu'elle fait malgré cette loi qui a été votée. C'est ça qui est paradoxal en réalité.
Bien sûr. Ma dernière question, Lise, et vous l'évoquiez à l'instant, si justement votre théorie est la bonne, et je n'en doute pas un instant, comment se fait-il à ce moment-là, puisque c'est, j'ai presque envie de dire de la poudre aux yeux, d'une certaine façon, cette loi, comment se fait-il que tout le monde soit vent debout contre l'adoption de cette loi si elle ne changera strictement rien de facto?
C'est pas de la poudre aux yeux et elle ne va pas rien changer. D'abord, cette loi, c'est normal, elle est votée en Israël pour la Knesset. Elle s'adresse d'abord et en premier lieu à l'opinion publique israélienne qui n'aurait pas compris qu'on ne fasse rien en ayant découvert ce que Israël a découvert. Ça, c'est la première chose. Maintenant, effectivement, les autres ont peur et je vais vous dire, ils ont peur de devoir se retrouver à gérer effectivement ce qui va se passer à Gaza. Maintenant, le Programme alimentaire mondial, le World Central Kitchen dont on a vu un incident, l'UNICEF, le HCR, et d'autres. Il y a au moins 10 autres agences qui sont sponsorisées entre autres par l'ONU et des dizaines d'ONG qui pourraient contribuer à combler le vide qui a été laissé par l'UNRWA. Donc dire que l'UNRWA, c'est la seule possibilité, c'est complètement absurde. Ça n'est pas du tout le seul programme qui a lieu à Gaza. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était selon l'ONU le principal moyen de fournir l'assistance aux réfugiés palestiniens. Il faut donc faire du changement. Les gens n'aiment pas le changement, ça, vous le savez, mais c'est pas pour autant que ça n'est pas possible, ça n'est pas pour autant que ça ne va pas être fait sur le terrain. On sait bien aussi que de toute façon, il y a une grosse pression américaine sur l'aide humanitaire et ça, elle est sur Israël, la pression, elle n'est pas ni sur l'ONU, ni sur les organisations. Donc Israël va devoir trouver aussi, après les opérations de l'UNRWA, d'autres ONG avec qui travailler sur le terrain pour pouvoir arranger à la fois la crise humanitaire et puis préparer l'alternative, la suite de ce qui va se passer quand la guerre sera terminée, ce qui, sans nul doute, en tout cas pour Gaza, ne devrait pas encore durer pendant des années.